Merci pour ce temps que nous venons de vivre. On peut aussi être reconnaissant pour notre équipe de louanges qui a été à la manœuvre ce matin, et on peut vraiment les encourager parce qu'ils nous ont amenés dans la présence du Seigneur. Et on va continuer avec sa parole qui va être proclamée. Et je prie, Seigneur, que alors que ta parole va être lue, je vais prier qu'elle soit lue, qu'elle soit entendue, que les oreilles de nos cœurs, nos oreilles spirituelles s'ouvrent, et que Seigneur, tu puisses vraiment délivrer dans le cœur de chacun un message, que tu puisses donner, Seigneur, une pépite, que tu puisses donner, Seigneur, une révélation qui vienne toucher profondément le cœur d'un frère, le cœur d'une sœur, et que tu puisses, Seigneur, vraiment travailler ces cœurs qui sont malléables entre tes mains. Et que, Seigneur, vraiment, cette parole, ta parole, puisse vraiment faire son travail et qu'elle puisse transformer. Je prie pour une transformation, Seigneur. Que ta parole soit vraiment écoutée, qu'elle soit comprise et qu'elle descende au plus profond de nos cœurs. Amen. Alors, on va continuer sur une thématique qui m'est chère depuis quelques mois. Je vous avouerai qu'avant de préparer ce message, je me suis mis un peu en prière et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte à l'Église? Qu'est-ce que tu veux que je donne comme message? Qu'est-ce qui est sur ton cœur que tu as envie de déposer sur mon cœur? Mais j'ai rien reçu. Des fois, ça arrive. Hein, ça vous arrive aussi de prier et de ne pas entendre la voix de Dieu? Ça arrive. Soyons humbles face à ça. C'est pas une tare, c'est pas... Donc j'ai rien reçu, jusqu'au jour où tu continues. Il faut persévérer sur cette thématique que je t'ai donnée, sur la joie. Sur la joie. Vous vous souvenez des messages précédents, peut-être, pour ceux qui étaient là ou qui ont pu les écouter. J'ai partagé... Sur ce thème, en reprenant des versets qui étaient des versets clés. Le premier, c'était sur la joie que nul ne peut vous ravir, dans Jean 16. Le deuxième, c'était plus autour de la joie des rachetés, une réflexion, une méditation autour de Romains 8, sur la joie des rachetés. Et le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler aujourd'hui de la joie qui nous donne la force. Et si on parle de la joie qui nous donne la force, eh ben on va dans Néhémie. On va dans ce verset qui est assez merveilleux et qui est puissant. Parce que quand on analyse ce verset, et puis quand on regarde un petit peu toute l'histoire de Néhémie, il y a de vraies vérités. Il y a une vraie, comme je disais dans ma prière avant de démarrer, il y a des pépites. Il y a des pépites qu'on peut aller attraper et qui peuvent vraiment nous encourager. Alors, je pense que c'est clair, le Seigneur veut continuer à nous encourager autour de ce thème. Et quand on parle de joie, on ne parle pas d'une joie, encore une fois, qui est une joie superficielle, qui est une joie éphémère, qui est une joie émotionnelle. Mais cette joie que Dieu donne à son peuple, c'est une joie profondément spirituelle. Ce que Jésus dit dans Jean 15, au verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » On peut remarquer que Jésus ne dit pas... afin que vous ayez de la joie dans ce verset. Il dit, afin que ma joie soit en vous. Ma joie. La joie de Christ. Ça signifie que la joie du chrétien, la joie qu'on est appelé à vivre, à manifester, c'est pas simplement une réaction humaine. C'est la joie même de Christ qui est déposée dans nos cœurs, dans nos entrailles. C'est sa joie à lui. Le mot joie ici, c'est en grec, c'est kara, ça a donné charisme. C'est un cadeau spirituel que Dieu nous donne. Ce n'est pas simplement une joie comme ça, un rire superficiel qui vient parce qu'un truc sympa se passe dans notre vie. Ce n'est pas que ça. C'est une plénitude d'âme qui provient finalement du fait qu'on a conscience de la faveur de Dieu dans ce moment-là. C'est une plénitude. La plénitude, c'est le pléroma. Vous connaissez le pléroma ? Ça vous parle ? La plénitude de Dieu. En grec, c'est la plénitude, pléroma, si tu veux le noter, Pascal. Et ça signifie remplir un vase jusqu'à ce qu'il déborde. La joie que Dieu nous appelle à vivre, c'est ça en fait. Il ne veut pas qu'on soit un peu joyeux, mais il veut qu'on soit vraiment pressurisé par sa joie. Au point qu'il n'y a plus rien d'extérieur qui peut rentrer. Quand le vase il est plein et qu'il est rempli jusqu'à ras-bord, il n'y a rien d'autre qui peut rentrer. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que la joie. La joie qui est là, la joie qui est présente et qui ne s'en va pas. Et cette joie, elle produit quelque chose de puissant. Elle produit de la force. Et c'est ce qu'on va partager ce matin. C'est exactement ce que dit Néhémie dans le verset 10 du chapitre 8. « La joie de l'Éternel sera votre force. » C'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Et ça va être intéressant de regarder ça, parce que ce matin, j'aimerais vraiment qu'on comprenne une chose. C'est pourquoi Dieu veut qu'on vive dans la joie. Pourquoi il veut ça pour nous, dans sa joie. C'est quoi les étapes pour arriver à ce que cette joie soit en nous et qu'elle ne reparte pas, qu'elle demeure en nous. Ça, c'est un vrai défi, hein. Et je pense que le Seigneur, ce n'est pas par hasard qu'il me demande de continuer sur la joie. Parce que pour moi, c'est un vrai défi. La vie de tous les jours, ce n'est pas toujours une vie de joie. C'est pas toujours, on n'est pas toujours au taquet, à 100%. Le curseur, il n'est pas toujours là-haut. J'ai une épouse qui est dans l'Assemblée qui peut en témoigner. Et donc, on doit aller vers ça. Le Seigneur veut qu'on aille vers ça. Il veut qu'on aille vers la joie. Cette joie qui naît quand Dieu restaure son peuple. Et c'est là qu'on va aller dans Néhémie 8. Parce que c'est hyper important, je pense, quand on lit Néhémie, et notamment ce chapitre, de comprendre comment Dieu agit, de comprendre le contexte. Le livre de Néhémie, c'est un livre qui se situe après une des plus grosses crises de l'histoire d'Israël. Vous connaissez pour la plupart, je pense, l'histoire. En moins 586, vous avez Jérusalem qui est détruite par les Babyloniens. Donc il y a grosse crise, le temple il est brûlé, les murailles de la ville ont été détruites, le peuple a été déporté. Cette catastrophe avait même été annoncée par des prophètes, par Ésaïe, par Jérémie. Et pendant 70 ans, vous avez le peuple qui va vivre en exil à Babylone. Mais comme souvent, comme toujours même, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu n'a pas abandonné le peuple d'Israël. Dieu n'abandonne pas son Église. Dieu ne t'abandonne pas. Et il y a un tournant qui arrive, et c'est assez curieux, avec un roi qui n'est pas un roi israélite, pour le coup, hébreu, c'est un roi païen, c'est le roi Cyrus. Et il va autoriser les Juifs à revenir dans leur pays. Et il va autoriser un certain nombre de restaurations. Il y a trois grandes restaurations qui vont se produire. Sous Zorobabel, la reconstruction du temple. Esdras qui va restaurer la loi. Et vous avez Néhémie qui, lui, a reçu de reconstruire les murailles de la ville. Reconstruire les murailles de Jérusalem. Et quand Néhémie, il arrive à Jérusalem, eh oui, les murailles sont détruites, les portes ont été brûlées, le peuple est défaitiste, découragé, et malgré tout, Par la grâce de Dieu, en 52 jours, Néhémie et le peuple vont réussir à reconstruire ces murailles, à combler les brèches. Et de nouveau, la ville, elle est protégée. Parce que quand vous refaites les murailles autour de Jérusalem, vous protégez la ville et vous la protégez matériellement. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. La reconstruction du peuple. Le cœur du peuple, lui, n'a pas été restauré. Et c'est intéressant de le voir. C'est là que commence Néhémie au chapitre 8. Et ce qui est important de noter, et on va le voir, c'est que la reconstruction, elle commence par quelque chose. Le réveil commence par quelque chose. Il commence par la parole. Et merci Pierre-Antoine d'avoir introduit de cette manière. Parce que ça rejoint exactement Matthieu 4. La parole dit. La parole dit. Lisons Néhémie 8, 1-2. Alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël, et Esdras, qui était aussi prêtre, a apporté la loi devant l'assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à la comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Remarquez un détail important dans ces versets, c'est que la parole, elle n'est pas imposée par les prêtres, par les lévites, elle n'est pas imposée par Esdras. Qui a demandé à ce que la parole arrive ? C'est le peuple lui-même. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter la parole. Le réveil commence toujours quand la fin de la parole revient. C'est quand cette fin revient que la restauration est possible. Elle ne peut pas l'être autrement. Une église, elle peut avoir des bâtiments, elle peut avoir une organisation, elle peut avoir des associations, elle peut avoir des activités, mais le réveil, il commence seulement quand le peuple a faim de la parole de Dieu. Il n'y a qu'à ce moment-là que ça peut jouer. On le voit dans le livre d'Amos, au chapitre 8 et au verset 11, Dieu annonce « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Ça vous rappelle quelque chose ? Quand Dieu visite son peuple, il réveille l'appétit pour sa parole. Quand Dieu visite son église, il réveille l'appétit pour sa parole. Seigneur, c'est vraiment ma prière qu'on puisse avoir cette faim et cette soif pour ta parole, que tu puisses susciter cette faim et cette soif pour qu'on s'y accroche et pour qu'on y cherche des révélations pour nos vies, qu'on cherche cette parole rhéma qui vient nous toucher, qui vient nous transformer, qui vient de faire de nous des disciples accomplis. Et il y a encore un détail assez magnifique qui apparaît dans le texte, dans Néhémie 8.4, et qui dit « Esdras se tenait sur une estrade de bois qu'on avait faite pour la circonstance. Le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois fabriquée pour l'occasion. » Là aussi, pourquoi une tribune en bois ? Pourquoi la parole elle est sur une estrade avec le scribe Esdras. Est-ce que la parole, elle ne doit pas être élevée ? Est-ce qu'elle ne doit pas être au centre ? Et est-ce que ça ne préfigure pas, quand on parle de cette estrade en bois, notre Sauveur, le Christ, qui a été élevé sur une croix, la parole incarnée ? La parole, elle doit être visible, elle doit être entendue par tous. Ce n'est pas l'homme qui doit être élevé, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et ce détail, il nous rappelle ce jour où Jésus sera élevé sur le bois de la croix, plusieurs centaines d'années plus tard. Et il y a quelque chose d'autre qu'il faut comprendre. Quand on lit dans Néhémie, Verset 8. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. En fait, il y a trois choses qui se passent ici. C'est que la parole, elle est lue, la parole, elle est expliquée, et la troisième étape, c'est que la parole, elle est comprise. À un moment donné, nous aussi, on est assis sur nos chaises bleues. Parfois, on est aussi assis peut-être plus confortablement à la maison, dans un fauteuil. On écoute ou on lit des messages. C'est bien. Mais est-ce que la transformation spirituelle, elle vient seulement de l'écoute? Est-ce qu'elle vient seulement de l'écoute? Ben non. On a besoin de transformation spirituelle. On a besoin d'être transformé par la parole de Dieu. Mais ça passe par le fait qu'elle soit expliquée et par le fait qu'elle soit comprise, qu'elle descende dans le cœur et qu'elle descende dans nos entrailles. Si on se contente de l'écouter, elle ne produira pas son effet. La transformation spirituelle, elle vient de la compréhension. Jésus lui-même nous le dit, Matthieu 13, verset 18 et suivant. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais qui n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Il l'entend, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30. Donc la semence qui porte du fruit, c'est celle qui entend la parole et qui la comprend. Et n'oubliez pas que la joie, c'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. Dans Galates 5, il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. L'amour, la joie. La joie, c'est le deuxième fruit. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. La parole, elle porte du fruit. Et un de ses fruits principaux, c'est la joie. Alors finalement, beaucoup d'entre nous entendent la parole, mais sans doute peu la comprennent, peu la méditent, peu la laissent transformer leur cœur. Alors là aussi, on peut prier, Seigneur, que la compréhension de ta parole, elle puisse vraiment descendre dans les cœurs. Qu'il y ait une compréhension, qu'il y ait une révélation particulière. Que je ne me contente pas, Seigneur, d'ouvrir ma Bible et puis de la lire peut-être machinalement parce que je me dis que c'est un devoir religieux, non. Seigneur, je prie que chaque fois que j'ouvre ta parole, elle puisse me révéler quelque chose de nouveau sur toi. Quelque chose de nouveau, de rafraîchissant, qui va m'aider, qui va me donner de la joie, qui va me permettre d'être, joyeux, rayonnant, et que quand on me voit, quand on partage avec moi, dans les sphères dans lesquelles je suis appelé à évoluer, et bien que Seigneur, la parole que tu as implantée au fond de mon cœur, elle se voit. Et qu'on se dise, ce type-là, cette fille-là, a un truc en plus. Et Seigneur, que cette lumière et que cette joie surnaturelle qui viennent de toi puisse vraiment rejaillir et resplendir. Et ça vient de ta parole, Seigneur. de ta parole qui est lue, entendue, expliquée et comprise. Je veux la comprendre, Seigneur, je veux la comprendre. Je ne veux pas me laisser décourager parce que ta parole, elle est soi-disant compliquée. Non, je peux saisir quelque chose. Je peux saisir quelque chose. Parce que quand le peuple, il comprend la loi, il y a quelque chose qui se passe. Et la Bible, elle dit quelque chose de puissant. Quand on va au verset 9 de Néhémie, il est dit « Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Tout le peuple pleurait. Pourquoi le peuple pleurait ? Pourquoi le peuple pleurait ? Ouais, parce que la parole, elle agit comme un miroir. Et qu'il y avait une repentance qui venait. Regardez ce que dit l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux. Donc la parole, elle a révélé quelque chose, elle a révélé le péché, elle a révélé l'éloignement avec Dieu, et elle a révélé ce besoin de repentance, ce besoin de faire un demi-tour et de se tourner vers le Seigneur et de dire « Seigneur, j'ai péché, Seigneur, je me suis éloigné de toi, Seigneur, j'ai raté la cible, mais Seigneur, j'ai besoin de revenir à toi. » C'est ça la repentance qui suit la conviction de péché et qui va produire cette restauration, ce réveil spirituel au sein du peuple. Un réveil à la conscience de qui est Dieu, de qui est son Fils, de qui est son Saint-Esprit, de qui est ce Dieu triunitaire qui est la source du salut. C'est ça, la repentance qui doit être un style de vie. Ce n'est pas simplement un petit pardon qu'on donne à Dieu comme ça du bout des lèvres. La repentance, c'est un style de vie. C'est reconnaître que oui, Seigneur, je ne suis pas avec toi conformément à ce que tu veux pour moi. Je ne t'obéis pas comme je devrais t'obéir. Mais Seigneur, en sincérité, je me repens, je reconnais mon péché. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Cette restauration, ce réveil, ne s'est pas arrêté là. Pour le peuple. Avec Néhémie. La repentance, elle a ouvert une porte. Elle a ouvert une porte. Et cette porte, c'était la porte pour la joie. C'est là que vient cette parole assez extraordinaire. Où Néhémie dit, Néhémie 8, 10, « Ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Le peuple est en train de pleurer, mais Néhémie dit, ne restez pas dans la tristesse. Il dit, restez pas dans la tristesse. Parce que la repentance, oui, elle produit le pardon, elle produit la restauration, et elle va produire la joie. Elle va produire la joie. Et David avait compris ça, David dont on parle beaucoup aussi dans l'Église depuis quelques semaines, il avait compris ça, il prie dans le psaume 51 au verset 14, « Rends-moi la joie de ton salut. » David, il ne demande pas la bénédiction, il ne demande pas le pouvoir, il ne demande pas les richesses, juste la joie de ton salut. « Rends-moi la joie de ton salut. » Parce qu'il avait compris quelque chose, il avait compris qu'il était perdu et il avait compris que Dieu l'avait sauvé. Et il porte en lui cette joie profonde. Et j'aimerais qu'on prenne ce temps de lire ce psaume 51, du verset 11 jusqu'au verset 20. Et regardez comme c'est puissant la parole de Dieu. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Construis les murs de Jérusalem. Les murs de Jérusalem, les chômas selon l'hébreu, les chômas de Jérusalem en hébreu, les mêmes que les Néhémies et les Israélites ont ici rebâtis. Donc la joie, elle donne une force spirituelle. La joie de l'Éternel sera votre force. Et le mot hébreu pour force, ce n'est pas le même. Ici dans ce passage, dans Néhémie 8:10, si tu veux le remettre, mon cher Romain, la joie de l'Éternel sera votre force. Le mot force, c'est maoz. Pour la force physique, la vigueur physique, c'est un autre mot. Ici, maoz, c'est une forteresse de pierre. C'est un lieu de refuge qui est imprenable. C'est un port qui est sécurisé pour les navires en pleine tempête. C'est ça ici le mot force. Donc quand Émile dit que la joie est votre maoz, il dit, notez bien, votre capacité à vous réjouir en Dieu, votre capacité à vous réjouir en Dieu, et ce qui construit une muraille invisible autour de votre esprit que le diable ne peut pas franchir. C'est ça la puissance de cette parole. Si l'ennemi ne peut pas voler votre joie, parce que vous avez construit une muraille autour de votre esprit, il n'y a rien qui peut briser votre vie. Il n'y a plus rien qui peut paralyser votre vie. Parce que la peur, elle va paralyser, mais la joie, elle va vous libérer. Parce que la joie, c'est cette muraille qui est autour de vous. La joie, elle va chasser tout ce qui, aujourd'hui, vous décourage. Le découragement, il va vous dire subtilement, hein, c'est toujours un murmure, c'est comment fonctionne l'ennemi. Arrête, la bataille, elle est trop dure. Pourquoi tu t'entêtes ? Mais la joie, elle te rappelle que Dieu, il est avec toi et que la joie, elle donne de l'endurance. Même Jésus a été porté par la joie. Même Jésus, il a vu cette joie à venir. Regardez ce que nous dit Hébreux 12, versets 2 et 3, à propos de Jésus. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Voyez, Jésus a été porté par la joie. La joie lui a donné la force d'aller jusqu'au bout de ce sacrifice. Cette joie profonde qui était en Jésus, c'est la joie de notre salut. Cette joie qu'il portait en lui, c'était le fait qu'il attendait qu'on accepte son sacrifice, qui allait nous laver de tout péché, qui allait nous laver de toute iniquité. le fait qu'on allait devenir ses enfants, les enfants de Dieu, le fait qu'on allait, oui, accepter cet esprit d'adoption par ce sacrifice. Il avait vu tout ça, et c'est ça qui réjouissait profondément Jésus. Et c'est parce qu'il attendait cette joie qu'il a souffert la croix et qu'il a méprisé l'ignominie pour être assis à la droite du trône de Dieu, comme nous dit la parole, là où nous sommes assis aussi avec lui, dans les lieux célestes. Ça doit nous encourager, ça. Parce que la joie, c'est une arme de contre-attaque. L'ennemi, lui, il vient que pour dérober, pour voler. Et qu'est-ce qu'il veut voler en premier? C'est votre joie. C'est ça qu'il veut dérober en premier. Parce qu'il sait qu'un chrétien qui est triste, c'est un chrétien qui n'a pas de défense. C'est un chrétien qui n'a pas de maoz. Qui n'a pas de force, qui n'a pas cette forceresse. Mais regardons. Regardons à Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. La puissance de la joie, c'est la capacité d'endurer le présent à cause de la gloire future. Parce qu'on sait qu'on va aller de gloire en gloire. Et la joie, elle nous rend capable de mépriser, comme il est dit là dans Hébreux, c'est-à-dire de considérer finalement comme insignifiant, comme tout petit, les circonstances actuelles, le problème que tu as actuellement. Parce que le diable, lui, bah, il va utiliser les soucis, il va utiliser les critiques, il va utiliser tes épreuves. Mais Jésus, lui, te fait une promesse dans Jean 16, 22, et ça on l'a déjà dit. Nul ne vous ravira votre joie. Ça, c'est une promesse du Seigneur. Nul ne vous ravira votre joie. Ta joie, elle est sécurisée en Christ. Elle est sécurisée en Christ. Et est-ce que vous croyez que Dieu veut une église joyeuse? Christ veut une église joyeuse. Pourquoi? Parce qu'une église joyeuse, elle va être forte. Parce qu'une église joyeuse, elle va être courageuse. Elle va être missionnaire. Elle va envoyer des ouvriers dans la moisson. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Qui dit ces paroles? Réjouissez-vous dans le Seigneur, et qu'il répète, hein. Réjouissez-vous, c'est l'apôtre Paul. Il est où l'apôtre Paul quand il dit ça? Il est en prison. Il est en train de souffrir tout ce qui est possible de souffrir. Et il est en prison. Et il nous donne cette parole. Réjouissez-vous toujours. Pas réjouissez-vous un peu, mais réjouissez-vous toujours. Et il le répète. Ce n'est pas une question de situation, la joie. C'est une question de révélation. C'est une question de révélation. Est-ce que la joie de Christ, est-ce que la joie de Dieu m'habite vraiment? Est-ce qu'elle m'habite? Et est-ce que on veut déclarer que notre Église est une Église joyeuse? Et est-ce qu'on veut déclarer la parole sur cette Église et sur nous? Est-ce qu'on veut déclarer la parole de Dieu? Romain, est-ce que tu veux bien mettre le petit document? Et on va déclarer la parole de Dieu sur l'Église. On va déclarer la parole de Dieu avec des paroles de joie, des versets qui portent. Et j'aimerais que ce soit prophétique. J'aimerais que ces déclarations sur notre Église, ces sept déclarations appuyées sur la parole de Dieu, qu'elles nous parlent et qu'elles descendent à chacun de nous. Oui, elles seront sur le site. Est-ce qu'on peut déclarer que Dieu restaure la joie de son peuple? Dieu restaure la joie de son peuple. Psaume 126, 5, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Est-ce qu'on peut le déclarer? Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Est-ce qu'on peut déclarer cette parole? Que Dieu transforme les saisons de tristesse. Avec le psaume 30, au verset 6. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Est-ce qu'on peut déclarer que Dieu transforme les saisons de tristesse en joie? Est-ce qu'on peut déclarer que Dieu fortifie ceux qui retrouvent la joie? Néhémie 8, 10, ne vous affligez donc pas, car la joie de l'Éternel est votre force, votre maoz, votre forteresse. Est-ce qu'on peut déclarer que Dieu remplit son peuple de joie? Est-ce que tu veux être rempli de joie ce matin? Romains 15, 13, que le Dieu qui est l'auteur de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut déclarer que Dieu remplit son peuple de joie? Est-ce qu'on peut déclarer que Dieu utilise cette joie pour toucher des vies, pour nous toucher? Acte 13, 52, les nouveaux disciples cependant étaient remplis de joie et de l'Esprit-Saint. Ils étaient remplis de joie et de l'Esprit-Saint. Seigneur, envoie ton Esprit, afin que cette joie, Seigneur, qui est en nous par ton Esprit, touche, qu'elle touche des gens, qu'elle touche des vies. Remplis-nous, Seigneur, de joie et de l'Esprit-Saint. Remplis-nous. Est-ce qu'on peut déclarer que Dieu fait de son Église un lieu de guérison? Dieu fait de son Église un lieu de guérison. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur qui est joyeux, qui est dans la joie, est un cœur qui est guéri, un cœur qui est restauré et un cœur qui amène la restauration et qui guérit autour de lui. Proclamons ça sur l'Église. Dieu fait de l'Église un lieu de guérison. Est-ce qu'enfin on peut déclarer que Dieu fait de son peuple un peuple rayonnant? Dieu fait de son peuple un peuple rayonnant. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvre la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, Église du tabernacle, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Oui, je déclare que Dieu fait de son peuple un peuple rayonnant, que Dieu fait de l'église du tabernacle une église rayonnante. Frères et sœurs, le monde est rempli de stress, de peur, d'angoisse. Mais nous sommes un peuple rayonnant. Nous sommes un peuple rayonnant. Nous sommes une église qui est appelée à porter une autre atmosphère dans ce monde. Une atmosphère de joie. Pas une joie fragile, pas une joie superficielle, mais la joie de Dieu. La joie de Dieu. La joie de Dieu qui est notre force. Et quand cette joie, elle nous remplit, on avance. On est un peuple qui devient fort. Un peuple qui devient fort pour prier. Un peuple qui devient fort pour servir. Un peuple qui devient fort pour avancer, pour aimer son prochain. Comme nous aimons Dieu. Seigneur, merci. Merci parce que tu es ce Dieu qui implante cette joie en nous. Et j'ai une question simple pour toi ce matin. Où en es-tu avec ta joie? Où en es-tu avec ta joie? Est-ce que l'ennemi a essayé de voler ta joie? Est-ce que tu t'es laissé tromper par celui qui n'est là que pour voler, pour dérober? Si tu as perdu ta joie, je t'invite à un cœur à cœur avec le Seigneur et on va prier. Tu peux te lever là où tu es. Et tu peux prier le Seigneur. Il veut restaurer ta joie. Seigneur, tu veux restaurer ta joie sur ton peuple. Alors Seigneur, nous proclamons ta parole. Et nous proclamons que la tristesse n'a plus part dans cette église. Il n'y a plus de tristesse. La tristesse fuit devant ta parole. La tristesse fuit devant les murailles que nous avons dressées dans notre esprit. Seigneur, ton esprit qui est vérité, ton esprit qui est vie, il communique avec notre esprit. Il y a une muraille. Il y a une muraille autour de notre esprit qui ne peut pas être atteint. Notre état d'âme, notre état physique, tout cela est couvert par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est un esprit de joie. Un esprit de joie qui s'allume. Il y a une étincelle de joie qui s'allume dans les cœurs maintenant. Il y a une étincelle de joie qui s'allume. Et que nul ne peut éteindre. Parce que Seigneur, nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs. Seigneur, tu as vaincu toutes les dominations, toutes les autorités à la croix. Tu les as clouées. Elles n'ont plus aucun pouvoir. Plus aucun pouvoir sur nous. Alors Seigneur, rayonne et fais rayonner nos vies de joie. Alors que nous allons entonner un chant qui te loue, un chant qui élève ton nom, un chant de joie dans lequel nous allons entrer avec, Seigneur, cette force que tu nous donnes, ce maoz, cette forteresse que tu as dressée devant nos ennemis, devant nos Goliaths. Et Seigneur, je proclame que plus personne ne pourra ravir notre joie et plus personne ne ravira ta joie parce qu'elle est en toi et parce que c'est ton Dieu qui te la donne. Ce n'est pas la joie du monde que Dieu te donne. Jésus te donne sa joie. C'est ma joie qu'il te donne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia.